ouvre les volets sur notre monde. Alors premier volet, entre 17h et 18h, le grand entretien de François Bunel avec son invité, suivi du magazine culturel de la rédaction. Et puis second volet, entre 18h et 19h, toute l'équipe de La Panique vous attend pour un décryptage décalé de l'actualité.
5-7 Boulevard.
Hey.
Philippe Collin.
Il y en a qu'en son.
À retrouver tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 17h. France Inter.
La différence.
À 15h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Salut Daniel, salut les MG. Alors, une grande nouvelle, hein. Il faudrait prévenir les journalistes de France 2. Là. J'ai entendu Arlette Chabot chez Pascal Clark, dans cette super radio France Inter, qui a déclaré donc que la direction de l'information était totalement indépendante. Alors, si vous pouviez faire passer le message aux journalistes, parce que ça ne se ressent pas tellement à l'antenne. Allez, ciao.
Eh bien, dis donc, Daniel, le monde va de plus en plus vite. Hein. C'est heureusement que Brice, notre Brice Hortefeux national, à nous, qu'on a, est là pour nous tenir au courant, parce que il a déclaré il y a quelques jours que 1/5 des délits sur Paris étaient dus au rhum. Et là, donc, je viens de prendre mon petit manuel du parfait petit lepéniste. Jusque-là, je pensais que les voleurs, c'était les Arabes. Alors je sais plus, est-ce que c'est les Arabes ou les Roms qui sont voleurs? Il faudrait que j'achète la nouvelle édition un jour. Enfin, heureusement, tout va bien. Les feignants, c'est toujours les Noirs. Les fourbes, c'est toujours les Asiatiques. Et les radins, c'est toujours les Juifs. Mais ça pourrait changer. Hein. J'attends que Brice nous tienne au courant. Ciao!
Pour les municipales de 2014, Hortefeux pense à la mairie de Vichy. Ça ne s'invente pas, c'est comme ça.
Allô, ici Babette Roulet, donc Europe Écologie, Albertville en Savoie. Quelques nouvelles factuelles. Le nouveau trésorier donc de l'UMP est M. Dor, de mon département, la Savoie. Il cumule déjà 4 mandats, gérant de société, maire d'Aix-les-Bains, député donc de la circonscription d'Aix-les-Bains, et en plus, donc, président de la communauté de communes Bourget du Lac Aix-les-Bains, ce qui est quand même un gros travail. Ah oui, une autre fonction, il a un micro-parti. Donc, ça va être sa 6e activité d'être trésorier de l'UMP. Donc, ça suffit. Hein. Donc, Europe Écologie demande d'aller vers une 6e République avec le non-cumul des fonctions. À ce sujet, le PS est en train d'attaquer Eva Joly parce que, soi-disant, elle l'a plus propre, elle n'est pas d'accord, comme nous tous, avec l'arrangement de Delannoy avec l'UMP. Décidément, ça va être dur, nous tous. Hein. Salut Daniel, à bientôt.
Cet été, en attendant le retour de là-bas, j'ai joué au jeu des 7 familles. En fait, ce sont les 7 familles qui possèdent les informations qui ont joué avec nous tout cet été. La règle était inversée. C'est pas toi qui demandes les cartes, c'est elle qui te les propose et toi tu les regardes. Alors dans la famille Amoury, on nous a donné le journal L'Équipe qui a fait exploser en vol la France du foot avec un gros titre, ordurier, rapportant le témoignage anonyme d'un corbeau de vestiaire. Dans la famille Bouygues, on nous a donné la carte TF1 qui a mis en image l'invasion des Roms. Dans la famille Dassault, on a proposé Figaro, le grand-père, qui a publié un sondage bidonné sur les Français et la sécurité. Dans la famille Lagardère, on a choisi le journal du dimanche et Paris Match, où le ministre Estrosi expliquait que ce sont les maires de gauche qui sont responsables de l'insécurité. Dans la famille Bernard Arnault, c'est le journal Les Échos qui nous a annoncé plusieurs fois la fin de la crise et la nécessité de la rigueur pour les Français, mauvais que nous sommes. Dans la famille Bolloré, c'est la chaîne Direct 8 qui a montré le président en vacances, qui fait du vélo, mange de la pizza et des beignets. Et dans la famille Hersant, enfin, c'est le journal Varmatin qui a fait des portraits complaisants de ministres studieux en vacances sur la côte, espérant que le président les verra dans le journal. Heureusement qu'il y a la petite famille de là-bas qui revient squatter l'antenne. Et là, je demande Daniel le père, François le fils et Pascal la fille.
Mais les autres? Ah, ben alors ça, ils étaient furieux en entendant ce message, tous les autres, toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, il n'y a pas que Ruffin, il n'y a pas que Pascariello, il n'y a pas que Mermet, il y a toute une équipe. Merci en tout cas pour ces messages, chers AMG, surtout ce dernier message, mais tous les autres. Et surtout, faites très attention quand c'est du deuxième degré, quand c'est de l'humour. On va peut-être faire un petit signal sonore pour que vous compreniez bien quand c'est humoristique, quand c'est drôle. Et à propos d'humoristique et de drôle, lundi, en commençant la saison, on vous a fait entendre un un sketch de Gérald Dahan qui datait de 2005 où il animait une réunion de l'UMP et où il faisait une imitation de Nicolas Sarkozy, puis ensuite voilà, Nicolas Sarkozy arrive, l'approuve, le félicite, etc. Et on a présenté cet élément en disant ben voilà, on peut avoir un engagement politique sur France Inter et ça pose pas de problème. Et alors j'ai reçu un mot tout à fait charmant, sympa, gentil de Gérald Dahan qui dit mais non, mais j'ai pas fait que ça dans la vie, j'ai aussi fait d'autres animations, d'autres sketchs analogues pour Delanoé en 2001, etc. Regarde un peu mieux mes spectacles, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Sarkoland. J'ai été censuré à la télé pour le lancement de ce spectacle, enfin le lancement du DVD, etc. Enfin, il m'a envoyé une lettre absolument charmante, dont acte, et on boit un coup, un de ces quatre, voilà, ça fait partie de la vie, et de la nôtre aussi, sur France Inter. Et on va revenir aujourd'hui sur une émission de juin dernier, dont il y a une suite, on peut dire, dans le monde diplomatique de ce mois-ci. C'est un article de Bernard Friot. Bernard Friot l'a reçu au mois de juin, et c'est une émission et un entretien qui vous a passionné à ce moment-là. Bernard Friot est un sociologue retraité, vous allez voir pourquoi retraité, et qui s'intéresse aux retraites, et qui est l'auteur d'un bouquin, L'enjeu des retraites, qui est sorti en mai ou juin aux éditions de La Dispute. Et il a beaucoup, beaucoup réfléchi à ces questions sur les retraites. Qu'est-ce que c'est que la retraite? Et sa réponse, elle est que c'est pas seulement une affaire comme ça, à court terme, de gestion ou seulement d'affaires de répartition ni de privatisation, ce qui est évidemment un enjeu important qui fera qu'on sera tous dans la rue mardi prochain avec Monsieur Woerth qui doit défendre ce dossier, ce qui n'est pas dans une bonne situation étant donné ce qui s'est passé depuis le mois de juin dernier, on l'a découvert, mais Bernard Friot va beaucoup plus loin et donne une réflexion de fond, à la fois de fond et originale, très originale. Et c'est exactement ce dont on a besoin, on a pensé qu'on avait besoin de ça aujourd'hui, à la veille donc des manifs des jours prochains. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. Je suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, Laurent de Grenoble. Je suis en train d'écouter ton émission et je voulais réagir au message d'Elisabeth, il me semble, qui parle de la richesse de l'État français qui ne peut pas accueillir toute la misère du monde, enfin le refrain habituel. J'aimerais bien que tu repasses l'émission sur la répartition du capital et ses différentes dérives depuis une vingtaine d'années. Voilà, histoire de remettre les choses à l'heure, quoi. Je te remercie pour ton émission et ne lâchons rien. À bientôt.
Oui, bonjour, toujours très bonne émission. Au sujet des tziganes et des camps de concentration, je voulais rapidement signaler que je suis originaire de Tigy, petit village du Loiret situé à côté de Jargeau, entre Orléans et Sully-sur-Loire. À Jargeau, il y avait le troisième camp de concentration du Loiret. Dans le Loiret, il y avait donc Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qu'on connaît pour lever le livre, et Jargeau, où pratiquement 1200 tziganes ont été internés, 1850 au total, dans ce camp. C'est le dernier camp qui a fermé en France, 31 décembre 1945, cherchait l'erreur 8 mois après la libération. Et voilà, je voulais aussi préciser, quand on délocalise en France où on va, en Roumanie, en Hongrie, etc., dans les pays de l'Est, on va chez eux, ils viennent chez nous, c'est pas plus mal. Voilà, je vous remercie, bon courage, et on est avec les tziganes, bien entendu. Au revoir.
Bonjour, alors je suis Vincent de Lyon. J'ai entendu François Ruffin qui faisait de la pub pour son journal Fakir. Alors je me suis dit que nous, la décroissance, il n'y avait pas de raison que nous n'en faisions pas pour notre journal qui est en kiosque aujourd'hui. Alors Daniel Mermet veut des citations. Alors il y en a une qui est tirée du dernier numéro de la décroissance que je vous présente. Alors je cite, c'est « Actuellement en vacances, l'eurodéputé d'Europe Écologie, José Bové, a reçu Yannatus Bertrand sur son bateau mardi. S'il n'a pas évoqué l'éventuelle entrée du photographe dans son mouvement, il a rappelé que Yann-Sud Bertrand le soutenait. Alors ça, c'était le 11 août sur Europe 1. Alors Europe 1, qui est une radio du marchand d'armes Arnaud Lagardère, comme chacun le sait. José Bové, il est très souvent intervenu à la base si j'y suis. Et nous, à la décroissance, on se demandait si José Bové n'avait pas fait installer une plateforme pour son hélicoptère sur son bateau pour accueillir Yab, qui est un grand ami de François Pinault et de Nicolas Sarkozy. Alors tout ça, vous le saurez peut-être en achetant la décroissance, une presse qui se vend pour ne pas être vendue. Merci, au revoir.
Bonjour, Emmanuel Béranger à l'appareil. Je vous téléphone pour faire un appel à la mobilisation générale. Samedi 4 septembre, venez tous chanter les petits papiers de Gainsbourg sous les fenêtres de notre ministre Besson. Rendez-vous à 11h au métro Varennes. Après, à 14h, place de la République, grande marche contre les exclusions massives des Roms. Ciao, ciao.
Bonjour tout le monde. J'ai écouté l'émission et notamment Gilles Balbastre et ça m'a fait penser à son film Les Apprentis Sorciers qui est sorti il y a quelques années sur la privatisation de l'électricité et en France notamment. Et c'est intéressant de le revoir par rapport à la future loi nommée Nouvelle Orientation sur le marché de l'électricité qui est en train de nous pendre au nez où un quart de la production électronucléaire sera dévolue au privé à un prix défiant toute concurrence. Il faut réagir, c'est maintenant, donc ça s'appelle Les Apprentis Sorciers, qui nous explique par le menu les ravages de la privatisation en matière énergétique. Pas oublier aussi la privatisation, la vente au privé des barrages français que tout le monde a payé depuis des décennies. Salut.
Oh, noble Mermet. Ben voilà un an, tu nous as fait le bonheur de t'intéresser à l'affaire du corbeau. Nous avons accueilli François Ruffin avec grand plaisir et apprécié sa compétence, son sérieux, sa disponibilité, et ainsi que les deux reportages qui en sont nés. Merci à vous deux et à toute l'équipe. Et alors depuis, malheureusement, aucune excuse des pouvoirs publics, rien. Silence radio. Alors aujourd'hui, je t'appelle pour te dire que ce n'est pas fini. Les garder à vue. On réagit, et ouais, un livre retraçant ce grotesque et violent coup de poing est actuellement en vente, et le 3 septembre, date anniversaire de cette rafle honteuse, les gardés à vue convient toutes et tous à la première fête des poulets, oui, la fête des poulets, qui aura lieu à 18h, place du village de Saint-Pons-de-Thomières, dans l'Hérault, bien entendu. Quel bonheur ce serait de vous accueillir à nouveau. Mais vous avez beaucoup d'autres sujets à traiter dans cette société qui va de mal en pis. Alors à bientôt, là-bas si j'y suis, on vous aime, continuez, la France a besoin de gens comme vous. De la part des Saint-Ponnais engagés, salut.
Bonjour Daniel et à toute ton équipe, de la part de Bruno d'Ajaccio. Si les Français se sont tirés dessus en Afghanistan, c'est pas une bavure, mais non. C'est de la faute aux talibans qui font rien qu'à nous embêter depuis qu'on est venu les aider à être démocrates et civilisés. À les armes à la main, mais bon, tant pis. Hein. Allez, à bientôt, la France Inter.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Bernard Friot. L'enjeu des retraites.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors la retraite est née sous sa forme actuelle, je dirais que...
Alors Bernard Friot a commencé, mais il faut auparavant dire quelque chose sur... son travail et sur son approche, je le disais en commençant, il est sociologue, il est retraité, j'y insiste, il va parler de la retraite, et il fait une analyse tout à fait originale, c'est-à-dire que, on le sait aujourd'hui, la retraite, les retraites sont le système de retraite, et attaqué de toutes parts, évidemment, surtout la retraite financée par la cotisation, mais on va voir que c'est pas un simple enjeu social pour Friot, pour Bernard Friot, c'est un projet de civilisation. Et vous allez voir, là, on dit cotisation, Les indices cotisations, les autres disent charges sociales. C'est pas du tout le même sens. Et on avait été étonné des raisonnements de Friot entre quelqu'un qui est soi-disant à la retraite, c'est-à-dire qui ne travaille plus, mais qui est trésorier d'un club de foot, qui fait partie du conseil municipal, qui cultive ces tomates ou qui prépare les vacances des enfants, eh ben, c'est quelqu'un qui, bel et bien, travaille, qui produit de la valeur, qui produit de la richesse, qui produit de la civilisation, qui produit du lien, tout ce que vous voulez, et qui est peut-être plus utile qu'un salarié qui, lui, travaille, mais qui, parfois, ne travaille que pour satisfaire des actionnaires voraces, tout en participant à éventuellement la pollution ou le désastre environnemental, par exemple, qui nous préoccupe tant. C'est ces relations et ces façons originales de rapprocher les choses qui nous intéressent dans ce que nous dit Bernard Friot, qui commence, vous l'aviez entendu, par une histoire, un historique des retraites.
Alors la retraite est née sous sa forme actuelle, je dirais que son début c'est une loi de 1853, donc ça fait plus de 150 ans, dans la fonction publique, qui dit que la retraite c'est la continuation du traitement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de cotisation dans la fonction publique d'État, qu'il n'y a pas
la retraite est la continuation du traitement.
Continuation du traitement.
Pour la fonction publique.
Pour la fonction publique. Pour les autres salariés, on n'envisage même pas qu'il puisse y avoir une retraite comme continuation du traitement, ça ne peut être que la contrepartie d'une épargne. C'est pour ça que tous les premières institutions mises en place sont des institutions à base d'épargne, jusqu'aux assurances sociales de 1930, qui créent une cotisation vieillesse obligatoire pour ceux dont le salaire est inférieur à un plafond d'affiliation. Et cette cotisation va à un compte épargne individuel. C'est Vichy qui, en 1941, va geler les comptes épargne et affecter la cotisation en répartition immédiatement à une allocation de vieux travailleurs salariés, la VTS.
La répartition, c'est Vichy ?
La répartition, c'est Vichy, oui, bien sûr, oui.
Et c'est ce qu'on veut sauver, aujourd'hui, la répartition ?
On veut sauver, justement, c'est une... Non, mais attendez. C'est pas parce que, initialement, l'acte est de Vichy que la chose n'a pas bougé dans son sens. Parce que ce que fait Vichy, il finance un forfait, un minimum vieillesse, pour faire face à la pauvreté de masse que génère la guerre. À la libération, le principe de la répartition est maintenu, mais pour financer précisément une continuation du salaire. Et si on prend ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, hein, le taux de remplacement pour la dernière génération qui ait pris sa retraite avant les effets de la réforme, c'est-à-dire les salariés qui sont nés en 1930 et qui prennent leur retraite donc entre 1990, ils ont 60 ans, et 95, ils ont 65 ans. Nous avons un taux de remplacement pour une carrière complète, c'est-à-dire pour 150 trimestres validés à l'époque, de 84% en moyenne. 84%. Donc on a un taux de remplacement considérable qui va d'ailleurs progressant de 45 à ces années-là, c'est-à-dire les années 90. C'est ce mouvement-là de poursuite du salaire que la réforme tente d'interrompre.
Mais alors, si on vous écoute, il ne faut rien réformer du tout, il faut laisser les choses, tout va bien.
Faisons progresser, bien sûr qu'il faut toucher, parce que la retraite moyenne des femmes est à 1100 euros en tenant compte de la reversion, elle est à 1600 euros pour les hommes. Nous sommes à des niveaux de retraite qui sont tout à fait insuffisants, correspondant d'ailleurs à des niveaux de salaire tout à fait insuffisants. Il faut savoir que le salaire médian, celui qui partage en moitié, hein, les salaires du privé, il est à 1600 euros. Seulement 10% des salaires sont supérieurs à 3000 euros en France. Donc on a des salaires très bas qui se traduisent par des pensions basses. Bien sûr qu'il faut améliorer le taux de remplacement, c'est-à-dire passer à 100%. Pourquoi est-ce qu'un retraité ne percevrait pas la poursuite de son salaire ? Pourquoi s'arrêter à
84%? Eh bien parce que Mme Parizeau nous explique, et pas seulement elle, mais ceux qui conduisent cette réforme et qui sont en train, selon le Figaro, de l'emporter, eh bien, c'est qu'on a aujourd'hui, dans le rapport entre les actifs et les inactifs, et les retraités, on passe de deux actifs pour un retraité en l'an 2000,
Et on va passer bientôt, c'est-à-dire en 2040, à un actif pour un retraité. Et donc, c'est impossible. Et ce que vous n'avez pas compris, cher Bernard, c'est que ça n'est pas une affaire de droite ni de gauche. J'ai l'impression que vous êtes plutôt à gauche qu'à droite. Comme ça, c'est une intuition. Mais c'est une affaire arithmétique. Donc ça, l'arithmétique, c'est la vérité. Vous êtes un scientifique et vous ne pouvez que vous plier face à cette arithmétique.
Bien sûr, l'arithmétique de Madame Parisot, puisque vous venez de faire allusion à une phrase de Madame Parisot. L'arithmétique de Madame Parisot est une arithmétique de Café du Commerce. Ce qu'elle dit là est aussi ridicule que si, en 1900, on avait dit à 30% d'agriculteurs aujourd'hui en France, il y en aura 3% en 2000, la famine, ni droite ni de gauche, elle est arithmétique. C'est aussi ridicule, chacun comprend que nous travaillons de moins en moins pour produire de plus en plus, et que la publicité même du gouvernement d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ces pubs, il y a des tas de photos de gens, des pleines pages, sauvons la retraite en répartition, un truc comme ça, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se mélange complètement les pieds dans le tapis. Elle nous dit, il y avait 4 actifs pour un retraité en 1960, il y a 2 actifs pour un retraité en 2010, il y aura un actif pour un retraité en 2050, donc il y a problème. On voit bien l'absurdité. Nous sommes passés de 4 actifs pour un retraité en 1960 à 2 actifs pour un retraité aujourd'hui, sans aucun problème.
Ben si, il y a un trou.
Non, il n'y a pas de trou.
Il y a un déficit.
Mais non, il n'y a pas de trou. Non, bien sûr que non. Alors là, si vous prenez les comptes de la protection sociale depuis 1945, lorsqu'ils sont définitifs, c'est-à-dire 4 ans après l'exercice, on a globalement, sur l'ensemble des 70 ans, on a un résultat qui est peut-être légèrement positif. On ne sait pas parce que c'est des comptes qui sont juste à 3% près, donc si un excédent de 1 ou 2% peut être un déficit de 1 ou 2%. Mais de toute façon, nous sommes toujours dans des excédents ou des déficits de 1 ou 2% à comparer au déficit du budget de l'État. Ça n'a rien à voir. Nos institutions de sécurité sociale, ça je le dis avec fermeté parce qu'il y en a marre de ce prétendu trou de la Sécu, sont des institutions financièrement extrêmement saines. Extrêmement saines. Il peut y avoir des conjonctures dans lesquelles il y a un déficit, mais qui sont suivies de conjonctures dans lesquelles il y a un excédent pour la retraite. Par exemple, il y a eu des tas de phases excédentaires. Arrêtons d'introduire tout dans le débat public un prétendu trou de la Sécu. Cela dit, s'il y a un problème de financement, c'est parce que depuis 1996, le taux de cotisation ne bouge plus.
Patronale,
il y a un gel.
Patronale.
Il y a un gel, ben, le salarié aussi.
Donc, selon vous, il n'y a pas de déficit du système
de
retraite.
Il n'y a aucun déficit structurel du système de retraite. Et si nous voulons assurer les déficits conjoncturels que nous trouvons, il suffit d'affecter une part minime de la croissance du PIB à une hausse du taux de cotisation patronale, ce que nous avons arrêté depuis 1996. Pendant 50 ans, de 1945 à 1996, vous avez eu une hausse permanente du taux. Il est passé de 8 à 26% du salaire brut. Et depuis 1996, nous sommes dans une espèce de tabou. Pas de hausse du taux de cotisation patronale. La hausse du taux de cotisation salariée serait tolérable, à condition bien sûr qu'il y ait une hausse du brut. Hein. Mais de toute façon, en absence de hausse du brut, la hausse ne peut être que du taux de cotisation patronale pour que les salariés récupèrent une partie de la croissance. La crise actuelle vient du fait de la modération salariale, comme on dit, qui s'est traduite par à la fois une faible progression des salaires, 0,5 à peu près pour 100 par an, alors que le PIB augmente de 1,5 par an, ça veut dire que les salariés ne récupèrent que le tiers de la croissance. Le reste va au profit. À cause également du gel du taux de cotisation patronale, qui fait que le salaire total, qui est le salaire direct plus les cotisations, n'augmente pas autant qu'il le devrait. La crise, elle vient de cela, celle qui a suscité la spéculation. Ça vient de ces profits générés par la modération salariale. Nous sommes aujourd'hui en train de nous voir imposer de payer le fruit de la modération salariale, précisément. C'est bien pour ça que la seule réponse par le haut à la crise actuelle, c'est d'augmenter massivement les salaires en augmentant le taux de cotisation.
Ah oui, vous êtes un révolutionnaire. Parce que c'est pas du tout ça qu'on est en train de faire. On est en train d'imposer la rigueur. Il y a un plan en Grande-Bretagne de rigueur extrêmement vigoureuse, et c'est ce qui est en train de se passer en France. Vous pensez qu'il faut augmenter au contraire les salaires?
Mais bien sûr, puisque la cause de la crise, c'est la modération salariale. Nous avons une baisse de 10 points des salaires dans le PIB qui s'opère dans la décennie dramatique des années 80, d'accord, et qui est restée. Nous sommes toujours à 10 points en dessous de ce que nous avions au début des années 80. Ces 10 points qui représentent quand même 200 milliards d'euros par an, sur un PIB de 2000 milliards, il manque. Et il faut les retrouver, parce que cette insuffisante progression des salaires qui fait qu'il y a crise, c'est ça l'origine fondamentale de la crise.
Et le chômage là-dedans, quel est son rôle? puisque qui dit chômage dit moins d'emplois, donc moins de cotisations, y compris pour les retraites.
Oui, bien sûr, ça, bien sûr. Mais encore une fois, la question du chômage est absolument liée à celle des salaires, c'est celle de la place accordée aux salaires dans le PIB. Si on accorde plus de place, tout à la fois, on augmentera le nombre d'emplois et on améliorera les salaires. Donc ça, les deux choses sont absolument liées.
La vie, la santé et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?
C'était Laurence Parizeau, présidente du MEDEF.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
Bernard Friot, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire ? Il y a un projet de réforme, mais on voit bien que derrière ça, il y a d'autres enjeux de nature politique et de nature idéologique.
J'ai présenté dès le départ un des enjeux fondamentaux, qui est de créer une masse de population en situation de faiblesse sur le marché du travail, puisque, évidemment, l'objectif de la réforme n'est pas que nous travaillions plus sur quels emplois. La durée du travail moyenne, elle diminue plutôt. Et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, nous travaillons de moins en moins pour produire de plus en plus. Donc, en aucun cas, il s'agit que nous travaillions davantage ou plus longtemps. Depuis 1993, hein, où les mesures d'augmentation des durées de cotisation sont censées pousser les gens à travailler plus longtemps, nous avons 17 ans de statistiques, il n'y a pas de prolongement de la durée d'activité. La cessation d'activité se fait toujours actuellement à moins de 59 ans. On est à 58 ans et 9 mois. En revanche, quel est le résultat de la réforme ? C'est que la liquidation de la pension est retardée. Actuellement, il est à 61 ans et demi. Il y a déjà, en moyenne, près de 3 ans de No Man's Land où on n'est ni sur un salaire normal, dans un emploi normal, ni retraité. Pour les femmes, c'est bien pire. Parce que les femmes n'ayant pas une carrière complète, beaucoup moins que les hommes, elles sont particulièrement victimes de la décote, qui est un truc monstrueux. Si bien qu'elles attendent, pour le tiers d'entre elles, elles attendent 65 ans.
Pour 60, avoir le taux
plein. 67 ans, si jamais la réforme actuelle passait, c'est vraiment scandaleux. Hein. Ou pendant ainsi actuellement 7 ans, mais 9 ans si jamais cette foutue réforme passait, nous aurions des femmes qui seront dans un no man's land. Alors qu'est-ce qu'elles feront ? Elles vont redevenir les femmes de leur mari, selon un magnifique progrès social. Elles vont être vulnérables, tout simplement. Déjà actuellement, je crois 36% des femmes sont inactives lorsqu'elles liquident leur pension. Ça veut dire que, n'étant ni en retraite, ni dans un emploi normal, qu'est-ce qui va se passer ? Et on a déjà la petite musique. C'est déjà une des mesures, d'ailleurs, préconisées par le gouvernement. Ah, mais il faut sauver cet emploi des seniors. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va faire des emplois aidés. Les employeurs qui embaucheront un senior n'auront pas de cotisation sociale à payer pendant un an. Qu'est-ce qu'on nous refait, là ? Et c'est pour ça que moi, j'utilise jamais le mot « senior », je dis toujours « vieux », parce qu'il s'agit vraiment d'un retour des vieux, on nous fait le coup des jeunes. Avec le même résultat. À quoi sert une population qui est définie par une caractéristique biographique, l'âge, le genre, la nationalité, comme catégorie de l'action publique ? Eh bien, elle sert d'instrument de pression à la baisse sur les droits de tous. Parce que je crois qu'il faut parler de cette affaire et bien comparer la question des jeunes et la question des vieux. Parce que nous sommes vraiment en totale symétrie. À la fin des années 70, c'est là que la classe dirigeante a décidé de siffler la fin de la récréation. Et de reprendre les choses en main. Il s'agit en particulier d'interrompre la progression salariale qui s'observe.
Qu'est-ce que vous appelez progression salariale?
La part des salaires dans le PIB qui augmente. Ah. Il s'agit de l'interrompre, cette affaire. Mmh. Et ça va être le cas, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à 10 points de moins. Mmh. Nous sommes passés de 70 à 60% des salaires dans le PIB. Comment faire? Il y a une pratique ancienne qui est une pratique de hausse constante du salaire d'embauche. Le salaire d'embauche, le salaire à 20 ans, à 25 ans, il augmente régulièrement pour entériner en quelque sorte l'amélioration de la scolarisation, de la certification et donc la reconnaissance d'une qualification supérieure aux jeunes. Vous voyez bien que cette hausse constante du salaire d'embauche en avale un effet de hausse constante de tous les salaires. Si l'on veut interrompre la hausse des salaires, il faut casser ce levier. Il faut casser le salaire d'embauche. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On invente un bobard démographique. Comme aujourd'hui, nous avons inventé un bobard démographique sur deux actifs pour un retraité, en fait, etc., etc. Ce bobard démographique, c'est, il y a des jeunes, qui sont des pauvres jeunes, qui ont bien du mal, un jeune sur quatre est au chômage, et face à ça, mieux vaut un petit boulot que rien du tout. C'est un mensonge. Un jeune sur quatre est au chômage, c'est absolument faux. C'est un mensonge d'État qui a été martelé pendant des années. Nous avons un taux de chômage chez les 18-25 ans qui est de 25%. Mais un taux de chômage, c'est au numérateur les chômeurs, au dénominateur les actifs. Un taux de chômage, ça veut dire de 25%, ça veut dire que le quart des actifs est chômeur chez les jeunes. Mais quel est le taux d'activité des jeunes? 30%, 70% des jeunes sont à l'école. Donc un taux de chômage de 25%, ça veut dire que le quart de 30% des jeunes est au chômage. Le quart de 30%, c'est 7,5%, c'est 1 sur 12. C'est le poids du chômage qu'on trouve dans toutes les tranches d'âge. Il n'y a aucune spécificité du poids du chômage chez les jeunes. Et si on dit, bah oui, mais un taux de 25%, c'est quand même très élevé. Bien sûr que c'est très élevé. Mais qui est en emploi chez les jeunes de 18 à 25 ans? Ceux qui sont en échec scolaire, ceux qui ont de faibles diplômes. Donc ceux qui ont de faibles salaires. Et pour toutes les tranches d'âge, le taux de chômage dans les faibles salaires, c'est 25%. Il n'y a aucune spécificité du chômage des jeunes. On nous a inventé une génération, toujours ce vocabulaire générationnel, hein, qu'il faut combattre avec la plus grande fermeté, une génération qui serait une génération sans emploi, dont il faudrait sauver l'emploi. Et pour sauver l'emploi, qu'est-ce qu'on fait? On casse le salaire. C'est ce qui s'est fait. Moi, j'ai enseigné en IUT pendant une trentaine d'années. À la fin de ma carrière en IUT, nous sortions des jeunes à un salaire deux fois moindre que celui qu'ils avaient au début de ma carrière. Pour que l'on retrouve aujourd'hui, à 25 ans, le salaire de 75, toutes choses égales par ailleurs, il faudrait le doubler. Imaginez l'effet sur l'ensemble des salaires si le salaire à 25 ans était de 2000 euros et non pas de 1000 euros comme aujourd'hui.
Là, ce que vous nous expliquez, c'est que cette façon de voir d'invention d'une génération, c'est une façon d'exercer une pression sur les exigences, les revendications salariales, à commencer par les salaires eux-mêmes. Où est-ce que vous mettez les travailleurs sans papier là-dedans?
C'est la même chose, les travailleurs sans papier. Qu'est-ce que c'est que l'immigration zéro? C'est évidemment l'apparition de travailleurs sans papier qui vont exercer une pression à la baisse. Sauf que la différence avec les jeunes, c'est que ça ne peut pas être une catégorie de l'action publique. On ne peut pas dire qu'on fait une politique de sans-papiers, parce que, justement, on est en immigration zéro. C'est illégitime. Alors que les jeunes ont été totalement légitimés, au point qu'on est arrivé quand même à ce truc monstrueux, quand on y réfléchit. Mais 30 secondes, des emplois jeunes. Imaginez qu'on ait créé des emplois femmes. Mmh. C'est dire à quel point on avait naturalisé une génération. Et on est en train de nous refaire le coup en inventant des vieux. Donc, il s'agit d'inventer en permanence. Si on veut faire une pression à la baisse sur les salaires, ce qui est central dans le capitalisme, hein, eh bien, il faut en permanence qu'il y ait des réserves de manœuvre. Et actuellement, on est en train de créer, après la réserve jeune, qui commence à battre de l'aile, hein, le CPE montre que les jeunes n'acceptent plus trop de jouer ce rôle-là, on est en train de créer une réserve de main-d'œuvre, ce sera les vieux, surtout des vieilles femmes d'ailleurs, entre 59 et 67 ans, ou 66 ans.
Qui seront obligés d'accepter n'importe quoi.
Qui accepteront n'importe quoi.
À n'importe quel coût.
Qui seront dans une situation de compétition avec des salariés, dans des emplois normalement payés, bien sûr.
Comment c'est pensé ce que vous dites là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ça comme
non.
Vous êtes en train de le
non.
faire?
Non, il n'y a aucun complot. Non.
Toutes ces choses-là. Ça marche comment?
Toutes ces choses-là sont pragmatiques. Ah ben, il y a une dynamique du capitalisme qui est quand même la valeur pour l'actionnaire qui suppose que la part qui va au salaire soit le minimum possible. Donc ensuite, dans cette logique-là qui est permanente, eh bien, ça dépend des opportunités. On croit le bobard démographique. On a cru qu'un jeune Socrate était au chômage. Si ça marche, bah pourquoi la classe dirigeante n'utiliserait pas cette crédulité? On est en train de croire qu'il n'y aura pas assez de travail, je ne sais pas quoi, en l'an 2050 pour payer les pensions. Il faut revenir là-dessus d'ailleurs. Hein, parce que cette crédulité-là, elle est quand même absurde. J'ai souligné la contradiction qu'il y avait dans le fait même d'écrire. Il y avait en 1960 quatre actifs pour un retraité, il y en a aujourd'hui deux pour un, il y en aura un pour un en 2050, donc il y a problème. Puisque nous n'avons eu aucun problème pour passer de quatre actifs pour un retraité à deux actifs pour un retraité, parce que dans l'intervalle, entre 60 et aujourd'hui, le PIB a doublé. En 1960, nous consacrions 5% d'un PIB de 1000 milliards aux retraites. Restait donc pour les actifs le profit qui part en fumée, les investissements, restait 950 milliards. Je pars en euros d'aujourd'hui, hein, je suis en monnaie constante. Aujourd'hui, nous avons 2000 milliards de PIB, dans lequel nous attribuons 13% aux pensions. 260 milliards restent donc pour les actifs, l'investissement et le profit qui part en fumée, et qui est toujours fondamental et considérable, il reste 1740 milliards, 2000 moins 260, à comparer aux 950 milliards qui restaient dans la situation précédente. Quand nous avions 4 actifs pour un retraité, 4 actifs pour un retraité produisaient 1000 milliards, aujourd'hui 2 actifs pour un retraité produisent 2000 milliards, et en 2050, un actif pour un retraité produira 4000 milliards, c'est la projection du COR. Sur ces 4 000 milliards, il nous faudra, non pas, comme dit le COR, 15,5% aux pensions.
Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites.
Voilà, c'est ça. Non pas 15,5% du PIB en 2050, il faudra beaucoup plus, parce que le COR raisonne comme si les réformes que nous subissons depuis 23 ans étaient éternelles. Évidemment que ces réformes, nous allons les abolir. Un pays de plus en plus riche ne va pas voir ses droits sociaux de plus en plus affaiblis. Ça ne marchera pas indéfiniment. Hein. Donc, nous allons abolir ces réformes. Et si on veut améliorer, passer à 60 ans, 100% du meilleur salaire pour tous et porter au SMIC s'il est inférieur au SMIC, il nous faudra 20% du PIB, passer de 13 à 20%. Mais 20% d'un PIB 4000, donc 800 milliards d'euros, à comparer aux 260 milliards actuels, ça laisse 3200 milliards pour le reste. Il n'y a aucun problème.
Mais alors, vous dites exactement le contraire de ce qui se dit partout, cher Bernard Friot.
Non, parce que les opposants à la réforme le disent aussi, cela.
Oui, mais ils sont minoritaires. Hein. Selon le Figaro, moi, c'est ma Bible.
Oui, bien sûr, je sais que le Figaro est votre Bible, mais tout le monde le sait. Mais tous ceux qui, comme moi, j'ai fait déjà 55 ou 56 débats depuis le mois d'avril. Non, l'exaspération, elle est totale. Le refus de la réforme, elle est totale. Il y a un grand défaitisme, non pas parmi les militants, bien sûr, mais dans la population, ça c'est vrai. Mais dire qu'il y a une acceptation, c'est faux, c'est absolument faux.
Pourtant, on nous présente cette réforme comme une volonté de sauver la retraite par répartition, et on dit peut-être alors que si on n'arrive pas complètement à la sauver, il faudra faire un petit peu de capitalisation, mais pas beaucoup. Évidemment, comme vous dites, l'opinion est quand même un peu avertie de ce qui s'est passé dans les effondrements des crises financières qui ont vu l'effondrement aussi de leur retraite. On a vu des quantités, des milliers, sinon des millions de salariés aux États-Unis ou ailleurs, voir leur retraite partir en fumée, comme vous dites. Qu'est-ce qui est derrière ça? Quelle est l'intention du gouvernement actuel? Est-ce que c'est vraiment, comme on le dit, la pression des banques, la pression des fonds d'investissement?
Ah ben oui, c'est la pression des banques et des fonds d'investissement. C'est bien pour ça qu'il faut en finir avec les banques et les fonds d'investissement. La retraite en répartition, qu'est-ce qu'elle a de très remarquable? C'est qu'elle nous montre que nous avons 260 milliards, hein, la retraite c'est 260 milliards d'euros, qui finance sans aucune épargne, sans aucune accumulation financière, sans aucun taux d'intérêt, sans rien de tout cela, des engagements massifs, 13% du PIB, et de long terme. On cotise à 20 ans, on est retraité à 90 ans. Donc nous avons des engagements massifs et de long terme que nous finançons sans aucune épargne, et ça marche beaucoup mieux que les pays qui ont choisi l'épargne pour les pensions, qui sont très minoritaires ces pays au demeurant. Hein. J'insiste, hein. La répartition en Europe, c'est 88% des dépenses de pension, 12% pour la capitalisation, en tout cas dans l'Europe des 15. Bon, l'arrivée des pays venus de l'Est, qui avaient été largement travaillés par la Banque mondiale sur le modèle Pinochet, a augmenté un peu le taux de capitalisation. Mais de toute façon, c'est très minoritaire. La répartition, qu'est-ce qu'elle prouve que les pays qui ont choisi de financer sans épargne la pension ont à la fois des niveaux de pension et une place de la pension chez les plus de 60 ans plus forte que les pays qui ont choisi l'épargne, en totalité aucun d'ailleurs, mais enfin en partie. Donc nous avons la preuve que nous pouvons tenir des engagements massifs et de long terme sans aucune épargne, et que ça marche mieux même. Donc investissons sans épargne.
Alors ce qui se passe dans votre raisonnement aussi, c'est que le retraité est perçu aujourd'hui comme une charge, comme un boulet, comme un poids mort. Il y aura une petite activité, peut-être, comme ça, de bénévolat. De... Enfin, il est voué au mieux à faire son jardin, à faire des petits voyages et à préparer la visite des petits-enfants de temps en temps, quoi. Mais il est pris en charge, c'est une charge.
Non, là, c'est vraiment un point dont il faut se débarrasser dans nos représentations, parce que ce n'est pas la réalité, et c'est une représentation extrêmement mortifère. D'une part, quand même, après tout, un retraité qui cultive son jardin ou qui crée des liens familiaux avec les petits-enfants est quand même largement aussi utile qu'un prof de mathématiques financières ou un type qui produit des semences non reproductibles ou qui produit des tas de marchandises qui sont nocives.
Oui, au moins, il détruit rien, voilà. Le retraité. Ne détruit rien, celui-là.
Oui, non seulement il ne détruit rien, mais faire des tomates qui sont des tomates, c'est produire. Hein. Et c'est produire quelque chose de très important. L'enjeu ici, ça c'est clair, hein, c'est l'enjeu central. Hein. J'ai insisté sur le fait de créer une population de réserve, ça c'est un enjeu important. J'ai insisté sur la possibilité dans laquelle nous sommes de financer l'investissement sur le mode de la cotisation sociale. Hein. Investir, c'est forcément prendre une partie de la valeur ajoutée que nous sommes en train de produire pour l'affecter à l'investissement. Cette valeur ajoutée, prenons-la sous forme d'une cotisation économique qui ira à des caisses d'investissement qui financeront l'investissement sans aucun taux d'intérêt, puisqu'il n'y aura plus d'appropriation privée d'une partie de la valeur dans des accumulations financières. Donc nous pouvons parfaitement remplacer les marchés financiers par une institution qui existe déjà, qui s'appelle la cotisation. Les marchés financiers, nous constatons tous qu'ils sont prédateurs, hein, qu'ils piquent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en donnent dans l'économie. Maintenant, alors, l'autre enjeu effectivement important, c'est la question du travail. C'est quoi travailler? Est-ce que les retraités travaillent? Est-ce qu'une femme qui utilise...
La réponse est non.
Eh bien, la réponse est oui. Hein, la réponse traditionnelle est non, oui, bien sûr, oui. Mais si nous répondons non, c'est parce que nous considérons que seul, si on est dans l'emploi, on travaille. D'ailleurs, on confond souvent... emploi et travail. Chercher du travail, en réalité, ça veut dire chercher un emploi. Ne pas travailler, ça veut dire ne pas avoir d'emploi. Dans nos sociétés capitalistes, c'est l'emploi qui décide du travail. Et aujourd'hui, pour le pire, aujourd'hui, l'emploi empêche de travailler. Je voudrais que cette phrase ne soit pas prise pour une provocation. Ceux qui sont en emploi, là, toutes les enquêtes le montrent, ceux qui sont en emploi, qu'est-ce qu'ils disent ? J'aime mon boulot, mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus du boulot. Comme employé de banque, je rendais des services financiers. Maintenant, on m'oblige à vendre des paquets, donc je sais que c'est de la merde. Je les vends parce qu'il faut, mais il y a une forme de souffrance. Alors, je donne cet exemple-là, mais il y en a des milliers, bien sûr, hein, de situations qui montrent que dans l'emploi, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment exprimer sa qualification. On ne peut pas du tout décider au travail, ça c'est clair, ce sont les employeurs qui décident à notre place, et les actionnaires, mais on ne peut pas non plus faire le bon travail qu'on avait l'habitude de faire.
Là, il y a un changement énorme. C'est plus les actionnaires que les employeurs.
Bien sûr, c'est plus les actionnaires que les employeurs.
C'est cette pression qui est...
Bien sûr, mais justement cette pression des actionnaires, nous pouvons la supprimer si nous remplaçons le financement par les marchés financiers, par un financement, par une cotisation économique. Mmh, ça, c'est vraiment fondamental. Je reviens donc à la question de l'emploi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chômeurs chez les retraités? Là encore, c'est une question qui vaut le coup d'être posée. Parce que les retraités, ils sont payés à vie. Et quand vous êtes payé à vie, ça veut dire que lorsque vous avez pris votre pension, en quelque sorte, les qualifications de vos meilleurs postes, puisque c'est sur les 25 meilleures années qu'on calcule la pension dans le privé, la qualification moyenne de vos 25 meilleurs postes, puisque dans le privé, hélas, c'est les postes qui sont qualifiés, pas les personnes, hein, devient en quelque sorte la vôtre. Elle vous est attribuée sous forme d'un salaire à vie. Si on a un salaire à vie, c'est que la qualification n'est plus celle d'un poste. Si on a un salaire à vie, c'est que la qualification, c'est celle de la personne même. et à toute qualification correspond un salaire, on a un salaire à vie. La raison du bonheur au travail de la moitié des retraités, pas tous, les 14,5 millions de retraités, il y en a la moitié qui sont dans la survie, hein. Mais 7 millions, ça fait quand même l'équivalent du tiers des actifs occupés. Il y a 21 millions d'actifs occupés, un truc comme ça. C'est 10% de la population qui le disent. On n'a jamais autant travaillé, on n'a jamais été aussi heureux de travailler, qui vous montrent leur agenda. Pourquoi ? Parce que ça tombe tous les mois. Ils n'ont pas besoin de passer par la case marché du travail, la case employeur, la case emploi, la case dictature du temps. Ils sont libérés de tout ça. Enfin, ils peuvent travailler. Et c'est pour ça que je dis que les retraités travaillent, parce qu'ils ont un salaire à vie, hein, qui fait que leur activité est transformée en travail. Et c'est un modèle que l'on peut parfaitement transposer. Pourquoi est-ce que à 18 ans, on ne disposerait pas d'une qualification avec le salaire à vie, d'une qualification qui progressera au fur et à mesure des épreuves qu'on passera, pas automatiquement bien sûr, hein, mais qui fait que nous serons libérés du marché du travail. Vous voyez, un jeune aujourd'hui, il faut dire, bien sûr, nous allons compter tes années d'études dans les annuités, ça, il faut le dire, évidemment, mais il faut dire aussi, et c'est là qu'il y a la vraie solidarité salariale, pas cette foutue solidarité intergénérationnelle qu'on nous met tout le temps la main sur le cœur, c'est absurde tout cela. La solidarité salariale, c'est les retraités qui disent « Mais ce à quoi j'ai droit, le salaire à vie, qui est la cause de mon bonheur au travail, tu y as droit aussi. Nous avons tous droit à du salaire à vie, nous avons tous droit à avoir une qualification de 18 ans à notre mort. »
Mais vous arrivez au revenu universel, là.
Ah non, pas du tout. Le revenu universel, c'est un forfait universel. Et c'est un revenu, c'est pas un salaire. Un revenu, qu'est-ce que c'est ? Un revenu, c'est quelque chose que l'on tire d'un patrimoine. Alors, revenu universel nous dit, il y a un patrimoine collectif, et nous avons un droit de tirage sur le patrimoine collectif. On ne sort pas de la logique de la propriété lucrative. C'est ça, la propriété lucrative. Mmh. Je tire un revenu d'un patrimoine que je ne consomme pas, mais j'en tire un revenu. Donc, idéologiquement, c'est très mauvais, ça ne nous fait pas sortir de la propriété lucrative qui est au cœur du capitalisme. Et maintenant, deuxièmement, dans le meilleur des cas, ce qui est proposé, c'est le SMIC. Hein, mais moi, je n'ai pas envie de passer ma vie au SMIC. Donc, je vais prendre un emploi en plus. Et le revenu universel, il va conforter le marché du travail. Parce que l'employeur va dire, bah, écoute, t'as déjà le SMIC, je vais encore pas plus te payer correctement. C'est ce qu'on observe partout, quand on peut cumuler une prestation fiscale et un salaire. On le voit avec l'intéressement, comme on dit, du RMI. Il n'y a que dans des cas, dans la Borsa Familia de Lula, en rural.
Hein,
c'est-à-dire là où il y avait vraiment rien. Des gens complètement exploités. Leur donner une petite ressource automatique et forfaitaire, ça les rend plus en mesure de négocier. Mais en ville, ça a eu l'effet inverse. En ville, les patrons ont dit « vous avez déjà ça, en plus vous payez correctement ». Et c'est toujours ça, c'est un effet toujours dépréciatif sur les salaires quand on peut cumuler un revenu et un salaire. Mmh. Donc, pour toutes ces raisons, je suis absolument contre le revenu universel, mais en revanche, oui, si nous voulons que tous travaillent, ce qui nous mettons derrière les mots « plein emploi hein, », ça veut dire « du travail pour tous », c'est justement l'emploi qui nous empêche de travailler. Je reviens à ma petite fable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chômage chez les retraités ? C'est parce qu'ils sont payés sans emploi. Du coup, ben, il n'y a pas de chômage. De même qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique, parce que la fonction publique, c'est une logique de qualification et non pas une logique d'emploi. C'est une logique du poste et non pas d'emploi. Donc, il n'y a pas de chômage. On est payé pour sa qualification. Donc, même si on n'a pas de poste, on reste payé, donc il n'y a pas de chômage. Donc, l'emploi génère le chômage. Donc, il décide finalement que certains n'ont pas droit au travail. Et l'emploi empêche de bien travailler ceux qui sont en emploi. Il faut maintenant passer à autre chose. Il faut attribuer à chacun une qualification avec le salaire irrévocable qui va avec, qui fait que nous allons enfin pouvoir exprimer nos compétences, notre appétit de participer au bien commun. Quand je vois des jeunes qui sortent de l'université avec vraiment un appétit énorme de participer au bien commun et qui doivent se transformer en demandeurs d'emploi, qui doivent maquiller leur diplôme.
Il y a un gâchis monstrueux.
Incroyable. Alors que s'ils...
Pas seulement les jeunes, d'ailleurs.
Mais bien sûr, pas seulement les jeunes. Mais je prends cet exemple-là parce que je le vis au quotidien. S'ils avaient un salaire lié à leur qualification, eh bien, ils pourraient immédiatement exprimer ce qu'ils sont.
Je crois que c'est ça l'essentiel. Hein. Tout votre travail, c'est de souligner cette chose évidente que nous savons tous, que nous ressentons tous, c'est le gâchis des énergies, des capacités de tous. On est tous devenus superflus.
Absolument.
Et c'est ça qui est catastrophique.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés. À moi qui n'apporte du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin.
Bernard Friot, vos prescriptions maintenant, vos conclusions à tout ça, qu'est-ce que vous conseillez? Avec l'ironie, un peu d'ironie dans ma question, bien sûr.
C'est évidemment augmenter le taux de cotisation patronale. Il faut déjà récupérer ce qu'on perd depuis 1996 avec le gel du taux. Il faudrait augmenter de 0,5 points par an le taux de cotisation. Donc on a perdu, en 14 ans, on a perdu 7 points. Les 7 points, comme par hasard, c'est l'augmentation des dividendes dans le PIB. Ils sont passés de 2 et quelques à 9, à peu près. Bon, eh bien, revenons à 2 pour les dividendes, supprimons les 7 points des dividendes, affectons-les à une hausse du taux de cotisation patronale. Voilà, ça c'est une proposition qui est très simple. Ça nous permet déjà de rattraper le temps perdu. Et ensuite, tous les ans, nous augmentons de 0,5 points le taux de cotisation patronale. 0,5 points de cotisation sur le salaire brut, hein, ça correspond à un quart de point de PIB, puisque le salaire brut, c'est à peu près la moitié du PIB. Donc, il faut affecter à une hausse du taux de cotisation patronale chaque année un quart de point de PIB, alors que le PIB augmente en moyenne de 1,5%. Donc, il suffit de prendre le sixième du taux de croissance annuel pour l'affecter à la hausse du taux de cotisation patronale, et nous serons à 20% du PIB pour les pensions en 2050. C'est facile, ça ne pose aucun problème, sauf de se battre évidemment contre les actionnaires, mais encore une fois, ça c'est une autre proposition fondamentale, commencer à se battre pour remplacer les marchés financiers et les banques, qui manifestement ne prêtent pas. On a encore un point de moins, je crois, que le mois équivalent de l'an dernier en prêt par les banques. Remplacer ces investisseurs qui n'en sont pas, hein, qui sont des prédateurs, par une caisse d'investissement financée par une cotisation économique. Autre chose, bien sûr, 100% du meilleur salaire. Hein. Il n'y a aucune raison que ce soit 75%. Le jour où j'ai 60 ans, ma qualification ne baisse pas de 25%. Bien sûr que j'ai droit à 100% de mon meilleur. Meilleur, pas forcément le dernier dans le privé, c'est pas toujours le dernier. 100% de mon meilleur salaire, parce que c'est lui qui exprime le mieux ma qualification. Et porté au SMIC, bien sûr, ça tout le monde le dit, hein, s'il est inférieur au SMIC. Et encore une fois, attribuer au fur et à mesure des années à ceux qui ont 18 ans une qualification et un salaire irrévocable. Et ça, progressivement, que toute la population soit dotée d'une qualification personnelle et d'un salaire irrévocable.
Est-ce que vous croyez que les syndicats et les partis partagent ces points de vue, ou est-ce que vous pensez pas plutôt qu'ils sont en défensive, qu'ils sont contre cette réforme, mais d'une manière défensive? Là, vous êtes dans un projet progressiste, on va dire. Hein.
Dans un projet révolutionnaire, je pense qu'il faut mettre le mot sur le tapis, parce que c'est un mot qui est tabou depuis maintenant 40 ans. Dieu sait si tous les tabous, hein, dans ce domaine, on ne cause plus du tout autogestion, on ne cause plus de rien. Hein. Depuis 40 ans, nous sommes dans une espèce d'année de plomb. Hein. Il faut remettre toutes ces questions-là sur le tapis. Révolutionnaire, ça veut dire quoi? À condition de ôter du mot révolution tous les oripeaux, dont y compris nous-mêmes, éventuellement, le déguisement,
oui.
Table rase, je ne sais pas quoi, etc. Il ne s'agit pas du tout de la table rase, puisque deux siècles de lutte sociale n'ont pas abouti à rien. Ça aboutit à la cotisation sociale, qui fait que la moitié du salaire reconnaît du travail non marchand.
Ça, c'est important.
Etc.
On nous fait croire que toutes ces luttes n'ont pas abouti.
Mais bien sûr que si. Nous avons des tremplins énormes. Ces tremplins, il s'agit de les prolonger. C'est ça, être révolutionnaire. C'est voir ce qu'il y a de subversif dans la réalité actuelle, non pas la chercher de je ne sais trop où, dans un ailleurs qui n'existe pas. C'est pas faire un pas de côté dans l'utopie. L'utopie est toujours en retard sur la réalité. C'est prolonger ce qu'il y a déjà
de neuf, de vivant dans le réel. Sortir de nos discours misérabilistes, sortir de nos discours mortifères. Moi, j'assiste à des débats, pas ceux sur les retraites auxquels je participe, mais à des débats comme ça, au quotidien, hein, dans lequel on est là tous là à se morfondre, à dire... on est quand même une génération qui pense que la génération en dessous aura moins de bonheur, moins de moyens, etc. C'est absurde. Il faut sortir de cet incroyable défaitisme collectif. Et pour cela... mettre en valeur ce qui est déjà expérimenté avec succès. On expérimente avec succès qu'on peut financer sans épargne des engagements massifs et de long terme, et qu'on peut financer non pas 18% du PIB comme aujourd'hui pour l'investissement, mais 25% du PIB. On crève de sous-investissement, on crève de mal-travail. Nous sommes dans l'impossibilité de donner notre mesure. C'est à ça qu'il faut maintenant s'attaquer.
Voilà, à sortir de ce défaitisme collectif, une heure avec Bernard Friot. Je rappelle le titre de son bouquin, L'enjeu des retraites, c'est aux éditions La Dispute. Et puis, un papier dans le monde diplomatique de ce mois-ci, un papier qui n'est pas très long ni trop long, qui est absolument passionnant et qui apporte encore des précisions sur ce qui vient d'être dit. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Guillaume Lacroux et Éric Morin, Koyen Guyon et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot. Et le répondeur, c'est maintenant Marina Touyez qui en a la lourde charge et qui attend vos messages au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
France Inter présente Léonard Cohen. Sola Marianne, it's time that we en tournée dans toute la France du 15 au 25 septembre. À Caen, Grenoble, Strasbourg, Marseille, Tours et Lille. Retrouvez Léonard Cohen dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
16h sur Inter, à demain 15h pour la basse si j'y suis, pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Après 2 ans d'interruption, les négociations israélo-palestiniennes sont sur le point de reprendre cet après-midi à Washington. Barack Obama a fait de la résolution de la crise au Proche-Orient l'une des priorités de son mandat. Sur le terrain, le Hamas annonce la poursuite de ses attaques contre Israël. Plusieurs centaines de militants de l'organisation palestinienne ont été arrêtés en Cisjordanie. Le Hamas s'oppose à toute négociation avec l'État hébreu. L'OTAN a-t-il commis une bavure en Afghanistan ? Le président Hamid Karzai accuse les militaires d'avoir tué 10 civils afghans. L'OTAN aurait bombardé 3 véhicules transportant des partisans d'un candidat aux élections législatives. De son côté, le commandement allié affirme avoir visé un convoi transportant un membre d'un groupe rebelle islamiste. Bientôt 250 jours que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, journalistes à France 3, sont retenus en otage en Afghanistan. Ils ont été enlevés dans la vallée de la Kapisa en décembre dernier. Cet après-midi, un rassemblement de soutien était organisé place de la Bourse à Paris. Avant l'été, des négociations ont commencé avec leurs ravisseurs, mais les choses n'avancent pas. Les précisions de Yann Fossurier, président de la Société des journalistes de France 3.
Les négociations portent toujours sur une rançon et des libérations de prisonniers. Maintenant, quelle quantité de prisonniers, on ne sait pas. Où en sont ces négociations? Est-ce qu'elles sont arrêtées? Est-ce qu'il y a un terrain d'entente qui a été trouvé? On n'a pas de confirmation non plus. Et puis il y a un autre élément aussi qui est important, je pense, dans les négociations, bah, c'est l'après, quoi. Hein. C'est-à-dire que je pense que pour les ravisseurs, c'est de savoir aussi d'avoir des garanties de non-représailles, ce genre de choses, quoi. Par exemple, c'est-à-dire et puis de savoir dans quelles conditions, s'il doit y avoir échange de prisonniers et remise de rançon, comment ça se déroule. Donc ça aussi, c'est un élément qui est aussi important dans les négociations et qui peut prendre du temps.
Propos recueillis par Mireille Lemaresquier. Les expulsions de Roms ne choquent pas la présidente de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Pour Jeannette Bougrabe, il s'agit de l'application de la loi et ces expulsions sont de toute toute façon contrôlée par la justice indépendante. Elle dénonce en revanche les discriminations dont sont victimes les gens du voyage. En revanche, contre la politique du gouvernement envers les Roms, 50 ONG et associations appellent à manifester samedi aux côtés de syndicats et de partis politiques de gauche. Des manifestations seront organisées dans plus de 130 villes en France. Pour le président de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Dubois, une borne a été franchie. Nous sommes mobilisés pour éviter une tâche sur la démocratie et les valeurs de la République, a-t-il déclaré. Deux mois et demi après les inondations qui ont ravagé le Var et fait 23 morts, le préfet Hugues Parent lance le chantier de la prévention, car il y a eu de nombreuses défaillances, comme l'absence de plan de prévention des risques d'inondation et une mauvaise gestion des rivières. D'ici 18 mois, toutes les communes inondées seront dotées d'un tel plan. C'est un éternel sujet de dissertation de philo. La foi et la science sont-elles compatibles? Eh bien, l'astrophysicien Stephen Hawking a tranché. Pour lui, Dieu n'a pas créé l'univers. Dans son nouveau livre The Grand Design, dont le Times publie des extraits, le chercheur britannique explique que les lois physiques seules suffisent à expliquer le Big Bang et la naissance de l'univers, qui n'a donc pas eu besoin d'un créateur.
Samedi, à partir de 21h, concert exceptionnel avec le groupe Tête Raide, en public et en direct de la braderie de Lille.
Il fait noir, il fait blanc, il fait rouge dedans.
Une soirée présentée par Isabelle Dordain.
Je vous retrouve à 21h, en direct de la braderie de Lille.
Pour assister à ce concert unique et gratuit, rejoignez-nous ce samedi à partir de 21h, place François Mitterrand à Lille.
J'ai dit banco.
Concert exceptionnel du groupe Tête Raide sur France Inter, samedi, à partir de 21h. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Ledéon pour Carrefour de Ledéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le diapason. On va feuilleter ce magazine de la musique classique qui est notre partenaire. Et il y a Pierre Voulez en couverture, toujours présent, c'est écrit. Point d'exclamation, c'est normal puisqu'il est né en 1925 à Montbrison. Et donc, il a plus de 85 ans, mais toujours solide, toujours un rock dans le monde musical, dans le domaine de l'intelligence aussi. Il a fait maths spé à Lyon pour faire de la musique. Et il a quitté cette spécialisation. Il est arrivé à Paris, entré au conservatoire, écrit ses premières œuvres, et puis après ça, une carrière gigantesque, non, sans remous parfois, sans opposition, sans coup de gueule. Il faut dire qu'encore aujourd'hui, Pierre Boulez a la main assez leste. Mais bon, voilà, c'est très salutaire, c'est très sain, et il y a une longue partie de diapason, un bel interview qui est consacré à ce grand maître. Je vous propose aussi, si vous allez dans diapason, de trouver, bah, je sais pas, pour la maison, par exemple, des piano droit, on peut essayer d'y faire piano droit. Et puis, il y a les livres, la télévision, les hommages en tout genre, les spectacles. Et il y a aussi un supplément qui nous donne les opéras. C'est un guide des opéras pour l'année musicale qui vient, pour cette rentrée, et puis le début de l'année 2011. Des enceintes acoustiques, les concerts de France Musique, etc., etc. Et puis, nous arrivons aux 200 compacts critiqués par la revue Diapason. C'est-à-dire, ben voilà, il y a quand même un flot de musique qui continue à exister, quoi qu'on en dise. Et puis nous avons appuyé les meilleurs, comme chaque mois, nous attribuons un petit sigle France Inter. Et bien ce choix est difficile parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, ça continue quand même. Voici par exemple de Franz Liszt, le premier concerto interprété par Byron Jennings, qui a quitté la scène il y a une quarantaine d'années. Il a été frappé par des problèmes de rhumatisme aux mains, et pourtant ce virtuose a été incroyablement connu. Ça a été un des tout premiers avec Van Cliburn à être autorisé à aller en Union soviétique. Il a enregistré là-bas. Ça a fait un tabac, littéralement, puisque les gens étaient debout dans la salle, au conservatoire Tchaïkovski, et partout où il est passé. Il reste des traces de ces moments prodigieux, comme par exemple cet enregistrement de Liszt. Premier mouvement allegro, maestoso de ce premier concerto. Le thème que vous allez entendre a été, à mon avis, quelquefois un peu trafiqué. C'est-à-dire que pour s'amuser, certains chantaient. Et c'était von Bülow, d'ailleurs, qui était tout proche de Francis, qui était parent de Francis, parce qu'il avait épousé une de ses filles qui chantait « Ça, vous ne pouvez pas le comprendre ». Ça s'adressait évidemment aux critiques qui n'entraient pas dans la modernité de Francis.